إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue la lecture du livre de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala intitulé « Leçons importantes pour toute la communauté ». Nous en sommes aujourd'hui à la 11e leçon dans laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé les différentes choses qui annulent la prière. C'est-à-dire que celui qui fait une de ces choses que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, alors sa prière devient invalide et lui incombe de la recommencer. Il dit, rahimahullah, les annulatifs de la prière sont au nombre de 8. Et on verra à la fin du cours qu'il y a d'autres annulatifs que ceux que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés. Il dit premièrement, parler volontairement et consciemment en ayant connaissance, c'est-à-dire de l'interdiction. Ceci est le premier annulatif de la prière. Le fait qu'une personne parle volontairement de son plein gré, consciemment, c'est-à-dire qu'elle ne le fait pas par oubli, et qu'elle a connaissance de l'interdiction du fait de parler en prière. Et ce, d'après le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. D'après Zayd ibn Arqam, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, « Nous avions pour habitude de parler en prière. L'un d'entre nous parlait à celui qui était à ses côtés durant la prière, jusqu'à ce que soit révélée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah, lorsqu'il dit, « وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Il dit ensuite, radiyallahu ta'ala anhu, alors il nous a été ordonné de nous taire. Et on trouve dans la version de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, et il nous a été interdit de parler. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le fait de parler est devenu interdit en prière. Donc celui qui parle volontairement, consciemment, et qui a connaissance de cela, alors sa prière est invalide. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous apporte une précision importante et il dit « Quant à celui qui parle par oubli ou ignorance, cela n'annule pas sa prière. » Par oubli, par exemple, une personne est en prière et quelqu'un arrive et ne sait pas qu'il prie. Il lui dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Par oubli, sans faire exprès, il dit « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Puis il se rend compte qu'il est en prière. Alors celui-ci, étant donné qu'il a parlé par oubli, c'est une erreur de sa part, alors sa prière est valide et il peut continuer de prier. Elle n'est pas annulée, incha'Allah ta'ala. De la même manière, celui qui parle par ignorance, c'est-à-dire qui ne sait pas qu'il est interdit de parler en prière, comme une personne nouvellement entrée en islam, qui ne sait pas que c'est interdit et qui parle durant la prière, celui-ci, sa prière n'est pas invalide. Et ce, d'après le hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu ta'ala anhu, qui a parlé durant la prière par ignorance. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, alors que je priais avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire derrière lui durant la prière en commun, un homme parmi les gens présents a éternué. Je lui ai alors dit, yarhamuk Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. Alors les gens ont tous jeté leur regard sur moi. Je leur ai alors dit, qu'avez-vous à me regarder? C'est-à-dire qu'il leur a parlé durant la prière. Alors ils se sont mis à taper avec leurs mains sur leurs cuisses, c'est-à-dire afin de le faire taire. Alors Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, il s'est tu. Il dit alors, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam termina de prier, il vint à lui pour lui parler. Et écoutez ce que nous dit Muawiyah, nous décrivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je n'ai jamais vu un enseignant, avant lui ou après lui, meilleur dans sa manière d'enseigner. Il dit par Allah, il ne m'a pas traité durement, ne m'a pas méprisé, ne m'a pas frappé et ne m'a pas injurié. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Certes, cette prière, il ne convient pas d'y prononcer une parole parmi les paroles des gens. Mais on n'en prononce que le tasbih, le takbir, la glorification d'Allah et la lecture du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de recommencer cette prière. Ceci est donc une preuve que dans cette situation, l'ignorance est une excuse et que la prière n'est pas annulée, bien qu'il ait parlé durant cette prière. Et on voit également à travers ce hadith le noble comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme nous le décrit Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, n'était pas méprisant, ne l'a pas traité durement, ne l'a pas frappé, ne l'a pas injurié, mais lui a enseigné ce qu'il ignorait. Et tel doit être le comportement du musulman, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a appris une partie de la science de cette religion, avec ceux qui ignorent, différents de ses jugements. Il doit les traiter avec douceur, et leur enseigner ce qu'ils ignorent, sans les mépriser, sans les traiter avec dureté, mais comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on leur enseigne ce qu'ils ignorent parmi les règles de la religion. Donc en résumé concernant cet annulatif, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, celui qui parle volontairement, consciemment et en ayant connaissance de l'interdiction, sa prière est annulée. Mais celui qui parle par oubli ou par ignorance, alors sa prière n'est pas annulée, elle est valide et il peut continuer de prier. Il dit, rahimahullah, deuxièmement, rire. C'est-à-dire le fait de rire en produisant un son. Car le sourire n'annule pas la prière. Et ça, c'est très important à souligner. Le simple fait de sourire sans produire de son, ceci n'annule pas la prière. Mais c'est seulement le rire qui annule la prière. Et il n'y a pas de hadith authentique rapporté à ce sujet. Toutefois, comme l'a mentionné Ibn al-Mundhir, rahimahullah ta'ala, les gens de science sont unanimes pour dire que le fait de rire annule la prière. Et ce, car le fait de rire est semblable au fait de parler. Et si tu médites, tu verras que c'est même pire encore. Car il y a en cela une forme de mépris et de dédain s'opposant à l'humilité que le musulman doit rechercher en prière. Donc celui qui rit durant sa prière est annulée et il doit l'interrompre et la recommencer. Troisièmement et quatrièmement, il dit manger et boire. C'est-à-dire que lorsque tu pries, il ne t'est pas permis de manger ni de boire. Et les savants sont unanimes à ce sujet. Donc celui qui boit ou mange volontairement durant sa prière est annulée et lui incombe de la recommencer. Quant à celui qui mange involontairement, à titre d'exemple, il vient de rompre son jeûne, ou il vient juste de manger, et il va prier. Au moment de la prière, il avale involontairement certains restes de nourriture qui sont présents dans sa bouche. Alors dans ce cas-là, les gens de science ont dit que sa prière est valide. Toutefois, il ne doit pas les avaler volontairement. Mais s'il lui est possible de les faire sortir de sa bouche, de les mettre dans un mouchoir ou autre, alors c'est cela qui est demandé. Cinquièmement, il dit, rahimahullah ta'ala, le dévoilement de sa awra, dévoilement de sa nudité. Et ce, car le fait de couvrir sa nudité, cela fait partie des conditions de la prière, comme on l'a vu dans la leçon 6. On a mentionné dans cette leçon, quelle est la awra de l'homme et quelle est la awra de la femme durant la prière. Donc si une personne découvre volontairement sa awra durant la prière, ou ne se couvre pas sa awra, alors sa prière est invalide. Et les savants sont unanimes à ce sujet. Toutefois, ils ont divergé quant à la personne dont une partie de sa awra se découvre durant la prière. Quel est le jugement de celle-ci? Est-elle valide ou invalide? Et ce qui est le plus juste à ce sujet, c'est que le dévoilement de la awra, il peut se produire de quatre manières. La première manière ou la première situation est que la personne découvre sa awra volontairement. Dans ce cas-là, comme on a dit, la prière est invalide. Et ce, qu'il se soit découvert, peu ou beaucoup, durant un moment court ou long. Il n'y a pas de différence en cela, à partir du moment où cela est volontaire, sa prière est invalide. La deuxième situation, c'est que la personne dévoile sa awra involontairement, et qu'il n'y ait qu'une petite partie de sa awra qui soit découverte. À titre d'exemple, si la femme a quelques cheveux qui dépassent de son voile durant la prière, et que cela est involontaire, alors dans cette situation, la prière est valide, incha'Allah ta'ala. La troisième situation est que la awra se dévoile involontairement toujours, mais qu'elle se dévoile excessivement, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la awra qui est dévoilée, mais que cela n'a lieu qu'un court moment. À titre d'exemple, une personne est en train de prier, puis au moment de l'inclination, se trouve à l'extérieur, le vent souffle et soulève son vêtement de sorte à dévoiler sa awra. Puis la personne se recouvre immédiatement et rebaisse son vêtement. Donc dans ce cas-là, ceci est involontaire. Cela et contre la volonté de la personne. Donc l'avis le plus juste à ce sujet est que dans cette situation, la prière est valide, incha'Allah ta'ala, et que la personne n'a pas à la refaire. Pourquoi? Car elle a recouvert sa awra rapidement, et deuxièmement, car elle s'est soumise ainsi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fattakullaha mastata'tum » « Craignez Allah autant que vous pouvez ». Donc celui qui recouvre sa awra immédiatement, lorsqu'elle se découvre, indépendamment de sa volonté, celui-ci a craint Allah autant qu'il pouvait. Donc sa prière est valide, inshallah ta'ala. La quatrième situation est que sa aura se dévoile de manière involontaire, excessivement et durant un long moment. Alors dans ce cas-là, les gens de science ont mentionné que sa prière est invalide. Car généralement, si sa aura reste découverte longuement et avec excès, alors c'est qu'il a été négligent. C'est pour cela que dans cette situation, la prière est invalide. On a donc deux situations durant lesquelles la prière est invalide et deux durant lesquelles elle est valide et il est important de distinguer entre ces différentes situations. Et à ce sujet, j'attire l'attention de nombreux de nos frères qui, lorsqu'ils prient, ne prennent pas le soin de couvrir correctement leur aura, et notamment ceux qui prient en pantalon. Il est assez fréquent de voir, dans nombre de mosquées, certaines personnes qui viennent prier en pantalon et qui ne prennent pas soin de couvrir leur aura. Alors, durant toute sa prière, sa aura est dévoilée. Et il se peut même que certains parmi eux passent une bonne partie du temps de leur prière à recouvrir leur aura. Ils s'imposent donc cette difficulté au risque de rendre invalide leur prière, alors qu'il leur suffirait de mettre un vêtement ample couvrant leur aura, comme un qamis ou autre. Le musulman doit donc prêter attention à cela et se rappeler que le fait de couvrir sa aura est une condition parmi les conditions de la prière. Et que le fait de laisser dévoiler sa aura de cette manière invalide la prière, c'est-à-dire que la prière est vaine. C'est comme si tu n'avais pas prié. Donc celui qui est concerné par cela, il doit se corriger, se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et couvrir sa aura comme il se doit durant sa prière. Et celui qui n'est pas concerné, mais à qui il arrive de voir cela à la mosquée, chez certains de ses frères, alors il lui incombe de leur faire le rappel avec douceur et sagesse, afin qu'ils apprennent à couvrir la aura comme il se doit, et qu'ils prient d'une manière valide, inshallah ta'ala. Et certes, ceci fait partie du bon conseil envers les musulmans et l'entraide dans le bien et la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné lorsqu'il a dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » et entraidez-vous dans le bien et la piété. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, sixièmement, dévier grandement de la direction de la qibla. Et ce car, le fait de faire face à la qibla, c'est une des conditions de la prière, comme on l'a vu dans la leçon 6. Donc si une personne dévie grandement de la direction de la qibla, et qu'elle le fait volontairement, alors sa prière est invalide. Donc le cheikh ici, rahimahullah ta'ala, il nous dit dévier grandement. On comprend que celui qui dévie légèrement de la direction de la qibla, sa prière est valide, inshallah ta'ala. On a vu dans le cours sur les conditions de la prière que ce qui est demandé à celui qui ne voit pas la Kaaba, c'est de s'orienter dans la direction approximative de la qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de Médine, ce qui est entre l'est et l'ouest est une qibla. C'est-à-dire que la qibla des gens de Médine, elle se trouve entre l'est et l'ouest. Tant que la personne se dirige dans cette direction, sa prière est valide, inshallah ta'ala. Et en ce qui nous concerne, c'est approximativement entre le nord et le sud. Si tu pries dans une direction qui se trouve entre le nord et le sud, alors ta prière est valide, inshallah ta'ala. Et c'est pour cela que certains savants ont mentionné au sujet de cet annulatif que ce qui est visé est de faire dos à la qibla. C'est-à-dire que tu pries dans la direction inverse de la qibla. Dans ce cas-là, la prière est invalide. Toutefois, à condition que ceci soit volontaire ou par négligence. Quant à celui qui prie involontairement, qui n'a pas été négligent, qui a fait les efforts nécessaires pour trouver la qibla, mais qui se trompe de direction, alors celui-ci, sa prière est valide, inshallah ta'ala. Par exemple, celui qui ne se trouve dans un endroit et qui ne connaît pas la direction de la qibla. Alors tout d'abord, son obligation est d'interroger, de se renseigner, d'essayer de savoir quelle est cette direction. Demander aux gens quelle est la direction du nord, quelle est la direction du sud, et à partir de cela, il pourra prier approximativement dans la bonne direction, inshallah ta'ala. Mais si c'est dans un endroit dans lequel il ne lui est possible d'interroger personne, qu'il ne connaît aucun signe lui permettant de trouver la qibla, et qu'il fait les efforts pour prier dans la bonne direction autant que possible, mais qu'il s'avère qu'il se trompe, alors dans ce cas-là, nous dirons que sa prière est valide, inshallah ta'ala. Et la preuve à ce sujet est qu'un jour des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, alors que c'était la nuit, ils ont divergé quant à la direction de la qibla. Alors certains ont prié dans une direction, et d'autres ont prié dans une autre direction. Et ils ont chacun tracé un trait sur le sol afin de voir le lendemain qui avait prié dans la bonne direction. Une fois le jour levé, ils se sont alors rendus compte qu'ils avaient tous prié dans une mauvaise direction. Ils ont alors informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela et il ne leur a pas ordonné de rattraper cette prière. Donc ceci nous prouve que celui qui fait des efforts, qui n'est pas négligent, alors celui-ci, sa prière est valide, inshallah ta'ala. Quant à celui qui dévie grandement de la direction de la Qibla volontairement, ou par négligence, qui n'interroge pas, qui ne se renseigne pas, alors celui-ci, sa prière est invalide et lui incombe de la recommencer. Septièmement, il dit, rahimahullah, les gestes inutiles, nombreux et successifs durant la prière. Et ce, car cela s'oppose à l'humilité et la quiétude qui sont demandées durant la prière. Et médite sur les mots que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a employés. Inutiles, nombreux et successifs. On comprend de cela que si le geste n'est pas inutile, mais qu'il a un intérêt, notamment un intérêt lié à la prière, comme par exemple le fait de faire un ou deux pas pour s'avancer vers une sutra, ou alors, si une femme se rend compte qu'elle a certains cheveux qui sont sortis de son voile, de remettre son voile correctement. Ceci, ce ne sont pas des gestes qui sont inutiles. Également, le fait de mettre ton téléphone en silencieux. Tu rentres à la mosquée, tu commences à prier, puis tu te rappelles que tu as oublié de couper le son de ton téléphone. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à ce que tu le sortes de ta poche et que tu coupes le son du téléphone. Ceci n'est pas un geste inutile. Il a un intérêt qui est lié à la prière. Donc il est permis, inshallah ta'ala. Deuxièmement, ils nous dit nombreux. C'est-à-dire que si les gestes sont peu nombreux, que c'est un geste léger, alors celui-ci, bien qu'il convient aux musulmans de s'en écarter et de faire en sorte de faire preuve de quiétude et d'immobilité durant sa prière, ce geste-là, il n'annule pas sa prière, inshallah ta'ala. Et la troisième chose qu'elle a mentionnée, c'est le fait qu'il soit successif. C'est-à-dire que si une personne fait un geste inutile à la première unité, lorsqu'il est debout, puis dans l'inclinaison il fait encore un autre geste inutile, à la deuxième unité il en fait encore un autre, à la troisième, et ainsi de suite, alors ces gestes, bien qu'ils soient nombreux, ils ne sont pas successifs. Donc cela, bien qu'il convient aux musulmans de les délaisser et de faire preuve de quiétude et d'immobilité comme on a mentionné, ces gestes-là n'annulent pas sa prière car ils ne sont pas successifs. Donc la base durant ta prière, c'est que tu ne dois pas bouger. Mais les mouvements qui vont annuler ta prière, c'est ceux qui remplissent ces trois conditions que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées. Qu'ils soient inutiles, qu'ils ne soient pas faits dans l'intérêt de la prière, qu'ils soient nombreux, et il n'y a pas de chiffre précis concernant le nombre, et qu'ils soient successifs, c'est-à-dire qu'ils soient faits les uns à la suite des autres. Non pas un geste à la première unité, un geste à la deuxième unité, ainsi de suite. Mais qu'ils soient faits les uns à la suite des autres. S'ils remplissent ces trois conditions, alors ces gestes annulent la prière, Wallahu musta'an. Il incombe à la personne de recommencer sa prière. Et quelle est la preuve qu'il est permis de faire des gestes durant la prière si cela a un intérêt? Les preuves sont nombreuses et parmi elles, il y a des hadiths rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala, dans lesquels on nous rapporte, premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour prié sur le minbar, sur la chaire, afin que ses compagnons l'observent durant la prière. Puis, lorsque venait le moment de la prosternation, il descendait du minbar, c'est-à-dire qu'il faisait quelques pas en arrière. Il se prosternait au sol, et après, lors de la deuxième unité, puis la troisième et ainsi de suite, il se relevait et remontait sur le minbar. On voit donc qu'il a fait quelques mouvements qui avaient un intérêt dans cette prière. L'autre hadith, c'est celui où Aïcha radiallahu ta'ala anha nous rapporte qu'un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière, il s'avança et fit quelques pas pour lui ouvrir la porte. C'est-à-dire que la porte était en direction de la Qibla. Il a donc avancé et fait quelques pas afin de lui ouvrir la porte, puis il a continué de prier. Et le troisième hadith, c'est celui dans lequel on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en prière, il portait sa petite fille Umama, la fille de sa fille Zainab. Lorsqu'il s'inclinait, il la posait au sol, puis lorsqu'il se relevait pour l'unité suivante, il la reportait. Donc tous ces hadiths, ils nous prouvent qu'il est permis aux prières, s'il y a un intérêt, de faire quelques gestes ou quelques mouvements durant sa prière. Et il n'y a pas de gêne en cela. Mais les gestes qui annulent la prière, ce sont les gestes ou les mouvements qui sont inutiles, nombreux et successifs durant la prière, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala. Enfin, huitièmement, il dit, rahimahullah, la perte des ablutions. Et ce car, comme on l'a vu lors du cours sur les conditions de la prière, la purification est une des conditions de la prière. Donc si une personne perd ses ablutions durant la prière, il lui incombe de sortir de la prière, de refaire ses ablutions et de recommencer cette prière. Et que le diable ne te pousse pas à rester dans la prière alors que tu n'as plus tes ablutions par honte de sortir devant les gens. Il n'y a pas de gêne en cela. Ceci est une chose commune qui arrive à tous les êtres humains. Donc s'il t'arrive de perdre tes ablutions, tu sors de la prière, tu retournes faire tes ablutions, et tu recommences la prière, Inch'Allah ta'ala. Toutefois, de la même manière, tu dois prendre garde à ne pas sortir de la prière sans avoir la certitude que tu as bel et bien perdu tes ablutions. Et ce, car le diable peut venir à la personne et lui faire ressentir certaines choses durant sa prière et lui suggérer qu'il a perdu ses ablutions. Et ce, afin de le perturber, afin de le détourner de sa prière, afin de lui rendre ses adorations difficiles. Alors la personne va sortir de la prière, recommencer ses ablutions, revenir prier, puis ressentir à nouveau la même sensation, et ressortir de la prière, et ainsi de suite, de manière répétitive. Dans ce cas-là, on applique le remède prophétique, qui est ce qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'il a été interrogé au sujet de la personne qui a l'impression que quelque chose est sorti de lui durant la prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il ne sorte pas tant qu'il n'a pas entendu de bruit ni senti d'odeur. Donc si la personne n'entend pas de bruit, ne sent pas d'odeur, alors il lui incombe de rester en prière et de ne pas tenir compte de ses doutes et de ses suggestions qui proviennent du diable afin de le détourner de cette adoration. Donc la perte des ablutions, elle fait partie des annulatifs de la prière d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il perd ses ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse. Donc celui qui perd ses ablutions durant la prière, comme on a dit, et qu'il en a la certitude, alors il sort de la prière, il refait ses ablutions, puis il recommence cette prière. Ceux-ci sont donc les 8 annulatifs que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés ici. Et comme je vous l'ai dit, certains savants ont ajouté d'autres annulatifs et ont donné plus de détails dans ce chapitre. Ils ont dit qu'il y a par exemple le fait de délaisser volontairement un pilier, une condition ou une obligation de la prière. Par exemple, une personne délaisse volontairement la récitation de la Fatiha, qui est un pilier de la prière, ou délaisse volontairement une inclination, une prosternation, alors celui-ci, sa prière est invalide. De la même manière, celui qui volontairement ajoute dans les gestes de sa prière, par exemple, il ajoute une inclination, où il ajoute une prosternation, où il ajoute une unité de prière complète volontairement. Alors celui-ci, sa prière est invalide, car il aura ajouté à sa prière ce qui n'en fait pas partie. Également, parmi les choses qui peuvent annuler la prière, il y a le fait de ne pas respecter l'ordre prédéfini volontairement. Si cela est fait volontairement, alors la prière est vaine et elle n'est pas valide. Également, ils ont mentionné le fait de saluer avant d'avoir terminé la prière, volontairement. Si une personne volontairement, alors qu'elle est à la deuxième unité, elle fait les salutations, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas par oubli, mais elle le fait volontairement, alors celle-ci, sa prière est annulée, il lui incombe de la recommencer. Enfin, ils ont mentionné également le fait qu'une femme pubère, un âne ou un chien noir passe entre le prieur et sa sutra, c'est-à-dire qu'il passe devant le prieur entre lui et l'endroit où il se prosterne. Si cela est le cas, alors la prière est annulée, d'après le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala à ce sujet. Ceci était donc quelques annulatifs que l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas mentionnés et au sujet desquels j'ai souhaité attirer votre attention ici. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra dans le cours de demain les conditions des ablutions. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا